Bonjour les joueuses et bonjour les joueurs. Nous sommes le lundi 22 juillet 2019 et vous écoutez un épisode hors série de Proxy Jeux. Je suis Hammer et pour m'accompagner aujourd'hui, je suis le seul de l'équipe à être ici aujourd'hui. Mais où est-ce ici, me direz-vous ? Eh bien, je suis à Berlin. Et vous allez voir que si je suis le seul envoyé spécial de la Proxy Team, je suis néanmoins en bonne compagnie. En effet, c'est ici dans un hôtel de Berlin que va être décerné ce matin le Spiel des Jahres 2019. Vous le savez, le Spiel des Jahres, c'est sans doute le prix ludique le plus attendu de l'année, un prix qui se base sur le marché du jeu germanophone, mais dont le rayonnement est devenu international au fil des années. En plus, cette année, c'est le 40e anniversaire du Spiel, puisque cette récompense a été décernée pour la première fois en 1979. Et c'est sans doute pour ça aussi que ce prix est devenu si prestigieux, grâce à sa longévité, car dans les années 80 et 90, les regards des joueurs étaient souvent tournés vers l'Allemagne. Bref, rassurez-vous, je ne vais pas vous refaire l'historique complet du Spiel des Jahres, non, je vais plutôt vous conseiller d'aller écouter ou réécouter ma chronique joueur d'ailleurs dans l'épisode 105, je vous y explique tout, vous verrez, c'est très intéressant et je ne suis pas biaisé du tout. Vous retrouverez aussi une interview du président de l'association Spiel des Jahres sur notre site. Tous les liens sont dans le billet de cet épisode hors série, alors allez faire un tour sur podcast.proxy-jeu.fr, proxy avec un i et jeu avec un x, évidemment. Mais venons-en à la cérémonie de ce matin. Le Spiel des Jahres, ça veut tout simplement dire « jeu de l'année » en allemand. Et ce jeu est choisi par un jury qui compte actuellement 10 membres et qui sont donc critiques de jeu. C'est d'ailleurs marqué sur le logo du Spiel en toutes lettres, il s'agit d'un prix de la critique. Tout comme pour l'As d'Or en France, ce sont les jeux parus pendant l'année écoulée, à peu près, qui sont considérés, et seuls sont éligibles les jeux qui sont sortis sur le marché allemand, évidemment. Comme le veut la tradition, c'est hier, dimanche 21 juillet, que le jury s'est réuni une dernière fois afin de choisir le lauréat parmi les trois jeux nommés qui avaient été révélés le 20 mai dernier. Et ces trois jeux, cette année, sont les suivants. Just One, de Ludovic Roudy et Bruno Sauter, édité par Repo Productions. Lama, de Rainer Knizia, édité par Amigo. Et Verwörter, de Ted Alspar, édité par Ravensburger. Si vous voulez en savoir plus sur Just One, je vous conseille d'aller écouter la chronique Jeux du mois de décembre 2018. Cyrus et Beno FX vous en avaient parlé à ce moment-là. Lama, c'est un jeu de cartes dans une petite boîte qui n'est pas encore sorti en France, sur un principe de défausse qu'il faut dire qu'on a déjà vu pas mal de fois. Quant à Verwörter, eh bien il n'est pas encore sorti en France non plus, c'est la localisation du jeu Weird Words sorti chez Bézier Game aux États-Unis. Et autour duquel il plane comme un parfum de soufre, si j'ose dire, car ce jeu reprend en grande partie le principe du jeu Insider de Jun Sasaki, sorti chez Own Games, tout en n'étant pas une localisation officielle du jeu. L'ami Iso Bretnik a fait une chronique détaillée et très informée sur ce cas un peu litigieux dans l'épisode des chroniques numéro 107, je vous incite fortement à l'écouter pour comprendre les dessous de cette histoire. Quel que soit le jeu choisi, le but du jury est toujours le même, c'est d'aider à répandre la culture du jeu dans la société. Celui qui se verra attribuer le fameux pion rouge est donc normalement toujours un jeu facile à aborder, même pour des personnes qui n'ont pas l'habitude de jouer, ou même de lire une règle de jeu. Mais ce n'est pas tout, car depuis 2011, il y a aussi une autre récompense qui est remise, ce même jour, celle du Kennerspiel des Jahres. On pourrait traduire ça par « jeu pour connaisseurs », mais en français cela donne une connotation trompeuse de « jeu expert », or il ne s'agit pas de ça. Quand on pose la question à l'association Spiel des Jahres à propos de la cible de ce prix, on se rend compte que le public visé n'est pas celui des gros joueurs, mais plutôt ceux qui ont déjà un peu l'habitude de jouer et qui souhaiteraient s'aventurer dans la lecture d'une règle de jeu un peu plus complexe. Parmi les jeux récompensés de ce pion noir ces dernières années, on peut citer Seven Wonders, Istanbul, Isle of Sky ou encore Exit. Et cette année, les trois jeux nommés dans cette catégorie sont les suivants. Carpe Diem, de Stefan Feld, édité par Alea, c'est-à-dire Ravensburger. Détective, de Ignaz Cevicek, Przemysław Riemer et Jakub Łapot, édité par Portal Games et Pegasus Spiele, et je m'excuse pour la prononciation des noms polonais. Et enfin Flügelschlag, de Elisabeth Hargrave, édité par Feuerland Spiele, ici en Allemagne. Carpe Diem, c'est donc un jeu d'un des auteurs de jeux allemands les plus connus, Stefan Feld, un jeu qui était sorti au salon de Essen en octobre dernier. Détective, le jeu d'enquête des Polonais de chez Portal Games, a déjà gagné l'As d'Or catégorie expert au Festival des Jeux de Cannes cette année. Et si Flügelschlag, ça veut dire battement d'ailes en allemand, ne vous dit rien, eh bien c'est parce que vous le connaissez sans doute mieux sous le nom de Wingspan, le jeu de construction de tableaux, construction de moteurs avec des cartes à effet, un jeu sur le thème original des oiseaux dont il a beaucoup été question dans les médias ludiques depuis le début de l'année, y compris chez Proxy Jeux. J'en veux pour preuve notre chronique jeu du mois d'avril 2019. Là encore, vous aurez le lien dans le billet de cette émission. J'en profite aussi pour vous rappeler qu'il y a aussi un Kinderspiel des Sierras, un prix du jeu enfant donc, qui est remis par un jury spécial, et pas au même moment, ni au même endroit. Cette année, le prix a été remis le 24 juin à Hambourg, et c'est le jeu La Vallée des Vikings de Marie et Wilfried Faure qui a été récompensé. Un couple d'auteurs qui réalise donc le coup double cette année, puisqu'ils avaient reçu l'As d'Or enfant à Cannes au mois de février, avec un autre jeu. Et on les avait d'ailleurs reçus en interview, c'était dans le numéro 106 de début avril. Allez écouter ou réécouter ça au besoin. Voilà, je suis donc ici à Berlin pour vous faire vivre la cérémonie de remise des prix, et interviewer aussi quelques éditeurs, auteurs et autrices. Alors c'est parti. Alors, je vous ai parlé de Just One, qui est l'un des trois jeux nommés au Spiel cette année. Eh bien, j'ai la chance d'être avec Thomas Provost et Bruno Sauter. Thomas, qui est un des cofondateurs et gérants de Repos Productions. Et Bruno, qui est eh bien l'un des deux auteurs, avec Ludovic Rudy, de Just One. Alors, Thomas, je dirais pas que Repos est un habitué de Berlin, mais enfin, il y a eu la victoire de Seven Wonders en 2011 au Kenner Spiel. En 2014, la nomination de concept. J'imagine que ça fait toujours plaisir de venir à Berlin, même si on n'est pas garanti de gagner.
Oui, ça fait toujours plaisir parce que c'est vraiment une renommée et c'est vraiment une félicitation du jury pour le travail qui a été accompli. Donc qu'on gagne ou qu'on ne gagne pas, c'est quand même important, mais ça fait très plaisir de se rendre compte que le travail qu'on a fait, la minutie qu'on a mis derrière les mois de travail sont de toute façon récompensés.
Le jury du Spiel dit en général qu'il vise à récompenser un jeu qui donne envie de jouer aux personnes qui ne jouent pas forcément régulièrement. Alors en quoi est-ce que Just One remplit ce contrat justement ?
Mais Just One, ce qui est assez impressionnant, c'est que déjà c'est une règle très simple. Il apporte énormément de plaisir. Et il est intergénérationnel. Quand on lit la règle, on se dit, bon, on y a déjà joué, ça n'a pas l'air très intéressant. Mais après un tour, les gens sont conquis et se rendent compte que derrière cette simplicité se cache en fait une règle qui n'avait jamais été inventée et un plaisir qui n'avait pas été aussi fort, tout simplement.
Alors, en dehors de toute nomination ou récompense, est-ce que Just One, qui est sorti, je crois, en octobre dernier, est-ce que Just One a rencontré son public ? Là, c'est vraiment à l'éditeur et au businessman que je m'adresse. Est-ce que ça se vend bien ? J'ai vu aussi qu'en parlant de récompense, qu'il avait eu, je crois, le Dice Tower Award du meilleur party game. Bref, est-ce que ça marche bien dans le marché francophone et aussi en dehors du marché francophone ?
Alors, ça marche bien partout. Vraiment même très très bien aux États-Unis, ça cartonne à mort puisqu'il est déjà entré chez Target. C'est notre premier jeu qui entre aussi rapidement chez Target. En France, le démarrage était un peu plus compliqué dû à la première édition de We Are The World. Donc les boutiques ont pris le temps pour le lancer, mais maintenant on est déjà sur une vitesse de croisière en fait. Donc c'est vraiment très très agréable.
Alors justement, tu parlais de We Are The World parce qu'effectivement Just One, c'est une réédition de We Are The World qui était sortie en 2017 chez Fun Consortium, donc la maison d'édition de Ludovic et Bruno. Alors Bruno, comment le jeu s'est finalement retrouvé chez Repos Prod et aussi rapidement après la première sortie du jeu ?
En fait, on est à la fois auteur de jeu et éditeur, et il s'avère que dans la partie édition, on a deux entités distinctes. Fun Consortium qui travaille sur des jeux un peu plus grand public et Serious Pulp pour les joueurs passionnés. Il s'avère qu'au moment où on a lancé We Are The World, on était pour le coup très occupé et très pris sur l'activité Serious Pulp. Et du coup, on n'a pas forcément eu les moyens physiques, parce qu'on est une toute petite équipe, de donner au jeu les moyens qu'il fallait pour le promouvoir sur les salons, pour faire le marketing, etc. Et malheureusement aujourd'hui, ou heureusement, le milieu du jeu est un milieu qui foisonne de bons jeux. Et si ton jeu ne sort pas très vite et ne passe un peu sous le radar, c'est le condamné à finalement une vie assez précoce. Donc on a fait le choix assez tôt de se dire, après quelques mois de lancement, qu'on ne serait pas nous en mesure de lui donner la chance qu'il méritait, de notre point de vue. Et donc, on a fait des appels du pied qui ont été entendus par Repos. Et on avait, nous, une confiance absolue dans la capacité de Repos à porter le jeu au-delà notamment de la France. Parce que c'est aussi du boulot de le localiser, de faire le boulot de développement à l'international. Et donc, on a finalement assez vite, hein, en quelques semaines, c'était réglé. On s'est mis d'accord pour laisser à Repos la main sur le bébé. On leur a confié le bébé. Et ils en ont fait un jeu à l'international dont on est hyper satisfait. Et même dans la relation qu'on peut avoir avec Repos, tout s'est vraiment super bien passé.
Est-ce que c'est un cas unique dans le catalogue de Repos Productions, c'est-à-dire un jeu que vous redéveloppez comme ça? Pas une première édition, est-ce que vous l'aviez déjà fait? Et comment s'est passé le développement? Parce que là, vous ne partiez pas d'un proto, vous partiez d'un jeu édité. Est-ce qu'il y a eu des différences? C'était peut-être un petit peu plus rapide aussi?
Donc c'est pas un premier cas pour nous, puisque Time's Up c'est déjà une réédition, et ça s'est un peu passé de la même façon, c'est-à-dire qu'une fois qu'on avait trouvé un accord contractuel, on a dit aux équipes il faut un an, ça doit sortir dans un an, par contre il y a des vraies choses à améliorer, il faut changer le titre, il faut changer l'ergonomie, il faut vraiment faire que ce jeu n'ait aucun frein en boutique, il faut lui trouver un vrai nom, un vrai prix, etc. Mais ce qui a été quand même un vrai travail assez complexe, surtout sur ce délai-là, quoi. Donc vraiment, on était convaincus du potentiel, mais on était convaincus aussi, parce qu'on a beaucoup de contacts avec des très bonnes boutiques, qui nous ont dit « le jeu est excellent, mais on ne peut pas le vendre comme ça ». Et donc, on s'est vraiment cassé la tête, c'est là qu'est venue l'idée des chevalets. On a simplifié certaines règles aussi, parce qu'il y avait pas mal d'exceptions, etc. Donc en soi, c'est un travail, il restait peu de choses à faire, mais elles étaient essentielles pour faire de ce très bon petit jeu, lui donner toutes les chances, tant commerciales que publiques, etc. Donc, en soi, c'était une tâche qu'on avait déjà faite, mais qui est vraiment un second regard, en fait. Ce qui est très agréable pour nous, parce que ça a l'air très simple. Enfin, nous, on a l'habitude à le faire, donc pour nous, c'est très simple. Mais c'est essentiel, en fait. C'est vraiment la différence entre un auteur et un éditeur. Et ici, Fun Consortium, qui est auteur et éditeur, manquait peut-être de recul, c'est pas évident. Et donc voilà, donc c'était très agréable, ça se complétait parfaitement, on avait une autre vision, et ça a été très 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 vite, ouais.
Alors je reviens un petit peu au contexte local, puisqu'on est à Berlin pour la remise du Spiel des Jahres. Est-ce que la licence Spiel des Jahres fait vendre autant dans l'espace francophone et ailleurs qu'elle peut le faire en Allemagne? Parce qu'on sait qu'en Allemagne, le jeu qui a le pion rouge va se retrouver absolument partout. Mais est-ce que ça vaut le coup d'apposer donc le fameux logo sur les boîtes aussi pour les éditions internationales, notamment en France, en dehors d'Allemagne en tout cas?
Oui, ça vaut le coup. Ça vaut le coup. En Allemagne, c'est très important. Donc si on parle de centaines de milliers de boîtes, c'est pas 400 000 non plus, hein, mais c'est au moins 150 000, 200 000 boîtes qui sont vendues l'année du prix. Mais surtout, ça apporte un regard de tout le milieu international sur le jeu. Si le jeu n'est pas connu, n'a pas encore une vraie vie commerciale, c'est une vraie explosion s'il le gagne ou s'il est nominé. Nous, avec le travail avec nos partenaires Asmodée et le travail de nos équipes en interne, Just One est déjà disponible dans énormément de pays. Donc, depuis la nomination, quelques pays se sont ajoutés. Quelques pays ont déjà augmenté leur volume parce qu'ils savent très bien que ça va avoir un impact direct si on gagne. Maintenant, donc voilà, oui, c'est déjà présent, mais c'est plus fort si on est moins connu ou si le jeu a moins de succès. Ici, comme le jeu est déjà un gros succès, eh bien, ça le booste, ça le renforce encore un peu plus. Mais par exemple, si on peut parler de Concept au démarrage avait très très bien marché, il n'a pas gagné le Spiel. Au final, il a atteint des ventes qui sont incroyables et qui ont dépassé de nombreux Spiels. Donc, il y a une vie avant le Spiel, il y a une vie après le Spiel, mais le jeu continue quoi qu'il arrive. Et le public est finalement le meilleur juge. Et on verra bien qu'est-ce qui se passera. Moi, je suis intimement convaincu que qu'on gagne ou qu'on ne gagne pas, Just One sera encore dans les boutiques pendant 10 ans, au minimum. Parce que c'est un jeu tellement simple, tellement agréable à jouer, où les gens ont tellement envie de rejouer, qu'il y a un marketing viral qui est juste parfait, qu'il n'y a pas de raison qu'il s'arrête de se vendre, qu'on ait le prix ou pas.
Alors Bruno, tu parlais tout à l'heure donc de tes deux maisons d'édition, donc Fun Consortium et Serious Pulp. Alors on sait que le projet Seventh Continent vous a pris énormément de temps et d'énergie. Tu disais d'ailleurs que c'était un peu pour ça que vous n'aviez pas eu le temps de vraiment porter beaucoup d'attention à We Are The World. Donc maintenant que le projet est derrière vous, pour Ludovic et toi, est-ce qu'il y a des idées de jeux telles que We Are The World, Just One, que vous allez souhaiter développer? Ou bien est-ce que vous allez vous lancer corps et bien tout de suite dans un autre gros projet avec Serious Pulp?
Alors le choix qu'on a fait, c'est de continuer à capitaliser sur le système qu'on a mis des années à développer, qui est un système bac à sable qui est à la base du 7e continent. Donc on projette de lancer un nouveau Kickstarter l'an prochain, donc en 2020, sur un jeu qui sera globalement basé sur le même système de jeu, donc une carte que tu explores et qui va se créer dynamiquement avec des cartes numérotées, mais transposée dans un univers qui va nous permettre d'amener de la nouveauté, d'explorer d'autres choses. Donc on est sur un univers médiéval fantastique, plutôt dark fantasy, donc assez sombre. À côté de ça, ça nous laisse, vu que je le répète, on est une toute petite équipe, ça nous laisse pas forcément beaucoup de temps pour travailler sur des projets d'envergure, mais on se laisse la possibilité d'avoir aussi cette petite, ce petit bol d'air de travailler sur des projets pas trop chronophages qui nous amusent et qui apportent quelque chose. On essaie à chaque fois d'apporter un petit quelque chose. Donc on a des projets dans les cartons, mais pour l'instant c'est un peu prématuré pour en parler. On verra comment tout ça se goupille, voir si on a le temps de les développer ou pas, seul ou avec d'autres, dans les 2-3 ans qui viennent.
Donc éventuellement, il y a des idées que vous avez actuellement dans les tiroirs, comme tu disais, que vous pourriez développer en tant qu'auteur, mais présenter à un autre éditeur, c'est une possibilité ?
On est assez ouvert, hein, on s'interdit rien. C'est vrai que c'est pas des, on fait pas vraiment de plan sur la comète, c'est en fonction des idées qu'on a et on essaie de, on fait en sorte que le projet ait le plus de chances d'aboutir. Donc si c'est en passant par un autre éditeur, comme on l'a fait avec We Are the World et Repos Prod, le tout c'est qu'on soit dans une relation de confiance, c'est-à-dire qu'on sache que l'éditeur qui est en face, et ça a été le cas sur We Are the World, ait la capacité et la volonté de porter le projet de façon, en y mettant l'énergie qu'il faut. Donc l'expérience était très très concluante sur We Are the World Just One, puisque vraiment dès le départ on a senti Repos impliqué, et puis les échanges se sont faits de façon très fluide et constructive, comme si on avait toujours travaillé ensemble alors que c'était une première collaboration. Donc c'est plutôt de bon augure pour d'autres collaborations, mais on n'exclut pas aussi de développer des jeux qui ne soient pas nécessairement dans les lignées de 7e continent. Nous-mêmes, ce sera un peu au gré de la disponibilité des envies.
Alors, dernière question, puisque la cérémonie n'a pas encore eu lieu, je ne vais pas vous demander de pronostic pour le Spiel des Jahres, parce que là, vous seriez forcément biaisé, mais pour le Kenner Spiel des Jahres. Alors, les trois jeux nominés, c'est Carpe Diem, Wingspan et Détective. Donc, qu'est-ce que vous en pensez ? Quel est votre pronostic ?
C'est difficile à dire. Si on parle avec le cœur ou si on parle avec la raison, je pense que Wingspan a quand même, de par son format, etc., a quand même pas mal de chance. Maintenant, Détective, très bon jeu. Enfin, y a, les trois sont... De toute façon, c'est à ce niveau-là de la compétition, c'est quand même difficile de trancher. Donc, je sais pas. Je dirais Wingspan, mais c'est une chance sur trois. Donc.
Et toi, Thomas, le regard de l'éditeur là-dessus ?
Je serais un peu moins politiquement correct, mais non, je pense que les trois jeux sont très bien. Par contre, pour le coup, je trouve honnêtement que l'édition de Carpe Diem est quand même pas parfaite. Il y a vraiment en tout cas, la première édition avec laquelle j'ai joué, je trouve qu'il y avait des choses qui, étonnamment, je comprends pas très bien pourquoi elle a été nominée alors qu'ils ont changé la règle. Il y avait des vrais problèmes d'ergonomie, etc. Le jeu est bien, mais le travail pur de l'éditeur n'est pas au top. Le jeu en lui-même est bien. Wingspan est un vraiment très très chouette jeu qui plaît à tout le monde. Je pense qu'il devrait gagner parce que je pense qu'il a le plus grand potentiel d'amour. C'est un thème très original, il est impliquant, la règle est très simple, on a envie d'y rejouer, etc., etc. Il est peut-être pas complètement abouti en termes de stratégie, etc. Mais au final, pour le public que ça touche, ce n'est pas gênant. Et Détective est un excellent jeu, vraiment excellent, mais les règles sont vraiment catastrophiques. Donc j'invite les gens à y jouer, à lire deux fois la règle, ou même simplement à la regarder d'un point de vue méta, parce qu'en fait, à votre tour, vous allez retourner une carte, la lire et avancer un pion de compteur d'heure, et faire aller des choses sur Internet comme vous le feriez normalement. Donc les trois jeux sont très 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 bien. Ils ont deux, je trouve que... Je pense que le jury a tellement aimé le jeu qu'ils sont passés outre ces petits défauts-là qui sont quand même importants, je pense. Mais le problème, c'est que c'est des pommes, des poires et des chaussures, quoi. Donc tout est possible, on verra bien. Je pense que celui qui a le plus de potentiel grand public reste quand même Wingspan.
Très bien. Eh bien, sur ces derniers mots, moi je vais vous souhaiter bonne chance, même vous dire merde, tiens, puisqu'on n'est pas obligé d'être politiquement correct. Et encore merci de nous avoir consacré un peu de votre temps.
Merci à vous.
Merci.
L'un des trois jeux nommés au Kenner Spiel des Jahres cette année se trouve être Wingspan, ou plutôt Flügelschlag, puisque c'est le titre allemand. J'ai le plaisir d'être en compagnie de Elizabeth Hargrave, l'autrice de Wingspan. Alors, première question, bonjour Elizabeth, tout simplement, comment te sens-tu ce matin ?
I feel good, je me sens bien, je suis prête.
Pas trop stressée ?
Non, mais je me suis réveillée très tôt ce matin par contre.
La version allemande donc, de Wingspan, comme je viens de le dire, s'appelle Flügelschlag, qui veut dire battement d'aile. Est-ce que tu as été en contact avec l'éditeur allemand avant ta venue ici à Berlin ? Et d'une manière générale, est-ce que tu savais que le jeu avait été très remarqué en dehors des États-Unis ?
So in terms of the German publisher specifically,
eh bien, en ce qui concerne l'éditeur allemand, j'ai entendu parler d'eux pour la première fois quand leur traducteur m'a contacté pour me poser des questions. Je savais que le jeu avait été traduit dans plein de langues différentes. Différents éditeurs ont fait des choses différentes, par exemple avec les cartes bonus qui se basent sur les noms des oiseaux, qui ne se traduisent pas forcément de la même manière dans toutes les langues. Alors on s'est parlé à propos de la manière de gérer ce genre de choses.
Cette nomination au Kennerspiel des Sierras, est-ce que c'est un petit peu comme une cerise sur le gâteau de l'aventure Wingspan ? Est-ce que ça a été une surprise pour toi ?
Cette année entière a été une surprise pour moi. Je n'aurais même pas osé rêver de la façon dont Wingspan a été accueilli.
Quand le Spiel des Sierras a été fondé il y a 40 ans, c'était une récompense connue uniquement en Allemagne. Aujourd'hui, est-ce que le Spiel s'est aussi connu aux États-Unis ? Est-ce que les joueurs y prêtent attention ?
Pour les joueurs, oui. Ici en Allemagne, j'ai l'impression que même le grand public le connaît. Mais aux États-Unis, ce n'est pas le cas. Mais beaucoup de jeux qui sont récompensés ont le logo avec le pion sur la boîte.
Alors, on a beaucoup entendu parler de Wingspan depuis sa sortie, et même l'an dernier, avant sa sortie. C'est un jeu qui a fait le buzz, comme on dit, chez les joueurs, mais aussi dans des grands médias généralistes, le New York Times, Nature. C'est assez exceptionnel, peut-être même unique en son genre. Comment est-ce que tu t'expliques toute cette attention qui s'est focalisée autour de ton jeu ?
C'est une très bonne question. Je ne sais pas s'il y a une explication. J'ai l'impression que c'est un concours de circonstances. Ce que je sais, c'est que le New York Times a un nouveau responsable de la rubrique science et que c'est un joueur. Ça a certainement aidé à la création de cet article. C'est lui qui m'a contacté d'ailleurs. Et une fois que l'article du New York Times est sorti, ça a attiré l'attention de tout le monde.
C'est vrai que c'est un thème très inhabituel pour un jeu, un thème ancré dans la réalité, qui plaît apparemment aux joueurs et au public d'une manière générale. Et pourtant, au départ, quand tu as proposé ce jeu aux éditeurs, beaucoup t'ont dit non, je crois. Qu'est-ce qui leur a fait peur à ton avis ?
Les éditeurs auxquels j'ai présenté le jeu, je les ai choisis parce qu'ils avaient publié des jeux que je pensais être un peu en dehors de la norme, un peu différents des thèmes que l'on voit typiquement dans les jeux. Aucun d'entre eux ne m'a dit que c'était à cause du thème qu'ils n'étaient pas intéressés. Je ne l'ai présenté qu'à 3 éditeurs. Quand j'ai commencé à le faire tester, oui, il y a des gens qui m'ont dit « Tu vas devoir changer de thème pour le faire publier. » Mais en fait, aucun éditeur ne m'a dit ça.
Alors justement, ce thème, c'est un thème qui parle de la nature. Je sais que ton jeu suivant parle des fleurs. Il y a aussi un jeu, je crois, qui va sortir chez AEG qui parle de papillons. C'est vraiment dans ce genre de thème que tu puises ton inspiration en tant que game designer ?
I do always start with a theme.
Oui, je commence toujours avec le thème. Ce sont des thèmes qui m'intéressent. J'aime les oiseaux, j'aime jardiner. Mais j'ai aussi commencé à travailler sur un jeu qui parle des cascadeurs parce que j'ai lu un article intéressant sur une cascadeuse qui est morte récemment. Si je trouve que c'est intéressant, que c'est une histoire que j'ai envie de raconter aux gens, mon cerveau commence à se mettre en marche et à imaginer des façons de faire jouer les gens sur la base de cette histoire.
Alors pour revenir à Wingspan, c'est un jeu qui a aussi été remarqué à cause de son casting entièrement féminin, puisqu'il a, je le rappelle, il a aussi été illustré par un duo d'illustratrices. Est-ce que c'était une volonté délibérée de l'éditeur pour mettre en avant les femmes dans le domaine du jeu de société ?
They say no, that they just
ils disent que non, qu'ils ont simplement cherché un artiste et ont trouvé Natalia, qui est aussi à Saint-Louis comme Stonemaier Games. Je crois qu'ils l'ont trouvé parce que c'est une artiste locale qui dessine des oiseaux. C'était une heureuse coïncidence. Et puis Beth Sobel est une illustratrice de jeux tellement populaire aussi. C'était un choix évident, autant à cause de son style que du fait qu'elle est une femme.
As much as because she's a woman.
Mais ça a été une chouette coïncidence d'avoir cette équipe entièrement féminine et qu'on l'ait remarquée. Et je crois que pour les joueuses, c'est très important de voir ces noms sur la boîte parce que c'est tellement inhabituel.
Oui, effectivement, c'est pas souvent, malheureusement, que l'on voit ça. Tu as toi-même profité de l'élan de Wingspan pour lancer une sorte de recensement de toutes les autrices de jeux. Comme dans bien d'autres domaines, les femmes sont sous-représentées dans celui du jeu de société. Est-ce que tu penses que cela est en train de changer ?
I think it is changing. Maybe not as quickly as we would like, but I think more. We know that more women.
Mais je pense que c'est en train de changer. Peut-être pas aussi vite qu'on le souhaiterait, mais on sait que de plus en plus de femmes jouent en général et les auteurs de jeux commencent en étant des joueurs. Alors pour les femmes, il y a un temps de retard. Et puis je crois qu'il y a un certain nombre de raisons structurelles pour lesquelles les femmes qui jouent ne sautent pas le pas et deviennent autrices. Parmi mes amis, je vois souvent que les femmes s'occupent des enfants pendant que les hommes vont jouer, même si elles aiment aussi jouer. Je ne sais pas comment résoudre ce problème. Mais il y a des choses qu'on peut corriger. Par exemple, il y a des éditeurs importants qui refusent maintenant qu'on leur soumette des prototypes qui ne sont pas allés chercher eux-mêmes. Sur leur site web, rien n'est prévu pour leur envoyer une idée de jeu. Et si les éditeurs de jeux travaillent uniquement avec des auteurs déjà publiés et que ces auteurs sont tous des hommes, ça n'aide pas les femmes à devenir aussi autrices de jeux. Il y a des éditeurs comme AEG ou Jelly Beans aux États-Unis qui font cet effort de dire « Nous, on cherche des femmes qui créent des jeux pour les rendre plus visibles et publier leurs jeux. » Et j'espère que ça donnera l'envie à plus de femmes de sauter le pas.
Alors, quelle est la suite pour toi ? Quels sont les jeux de Elizabeth Hargrave que l'on va pouvoir voir dans les mois à venir ?
Tu as parlé de Tussie Mussie qui était sur Kickstarter et qui sera disponible en octobre. Il y a aussi Mariposas qui sortira l'année prochaine chez AEG, qui est un jeu qui parle de la migration des papillons monarques. Et puis après, j'ai ce jeu qui parle des cascadeurs, comme je disais tout à l'heure. Et puis il y en a un avec des renards, la reproduction des renards en Russie.
Donc toujours des thèmes inspirés de la nature, donc presque toujours en tout cas. Est-ce que tu vas aussi travailler sur les extensions de Wingspan ou c'est plutôt l'éditeur qui s'en occupe ?
Oui, je me suis rendu compte après avoir répondu à la question. En fait, c'est une grosse partie de ce sur quoi je travaille actuellement. On a dit qu'on voulait faire une extension par continent. On n'a pas encore dit dans quel ordre on voulait les faire. La première est terminée et devrait sortir à l'automne si tout va bien, on verra. Et j'ai déjà commencé à travailler sur la suivante.
Donc un programme assez ambitieux, effectivement. Dernière question, alors je ne vais pas te demander ton pronostic pour le Kenner Spiel des Jahres, parce que tu serais un petit peu biaisé, mais est-ce que tu as un avis sur le Spiel des Jahres et les trois jeux qui sont nommés ?
J'ai joué aux trois jeux. J'ai récupéré Lama hier à BerlinCon, le festival de jeux de Berlin, parce que je ne crois pas qu'ils soient encore sortis aux États-Unis.
It's hard to say. I think the thing that Lama
c'est difficile à dire. Lama a pour lui de pouvoir être joué par des petits groupes de joueurs et comme le Spiel des Jahres vise les familles, ça peut aider.
And I think Werewords
était très innovant. En général, je n'aime pas les jeux à rôle caché, mais j'aime bien le concept de mélanger les jeux de loup-garou avec un jeu où il faut deviner des mots. J'ai bien aimé
Werewords. I actually enjoyed Werewords. But I've probably played
Mais Just One,
one
est sûrement le jeu auquel
year.
J'ai le plus joué cette année. Alors ça compte sans doute. Les enfants de mes amis veulent toujours y jouer à chaque fois que je les vois. On s'est beaucoup amusés.
That's been a lot of fun.
Très bien, bien, merci beaucoup Elisabeth. Puisque la remise des prix n'est pas encore passée, je vais te souhaiter bonne chance. Et encore merci d'avoir pris un peu de ton temps pour être à notre micro.
Absolutely, my pleasure.
Voilà, alors vous avez peut-être suivi la cérémonie en live ce lundi 22 juillet. Vous avez peut-être suivi le live tweet que l'on a fait sur ProxyJeux. Toujours est-il que je peux maintenant vous dire que les gagnants du Spiel des Jahres 2019 et du Kenner Spiel des Jahres 2019 sont Just One, donc pour la catégorie jeu familial, on va dire, et Wingspan, alias Flügelschlag, pour la catégorie Kenner Spiel. C'est donc Elisabeth Hargrave, l'autrice de Wingspan, qui remporte le pion noir, et Bruno Sauter et Ludovic Roudy pour Just One. À noter que Ludovic n'avait pas fait le déplacement, mais Bruno était là, ainsi que toute l'équipe de Repos Productions, d'Asmodée. Il y avait beaucoup de monde sur scène et beaucoup d'acclamations lors de la remise du prix, lors de l'annonce du prix. Un trophée qui a été remis à Bruno Sauter par la ministre de la Culture allemande, qui s'était déplacée pour l'occasion à l'invitation de l'association Spiel des Jahres. Comme je vous le disais à l'instant, c'est donc Just One qui a remporté le Spiel des Jahres 2019, la 40e édition. Tout à l'heure, j'étais avec Thomas Provost et maintenant, je suis avec l'autre cofondateur de Repos Productions, Cédric Caumont. Alors Cédric, c'est plutôt une bonne journée, j'ai l'impression.
Ah oui, là, ça se passe plutôt bien, on est plutôt content.
Un résultat conforme à tes espérances. On se pose toujours la question de savoir si quand un éditeur fait un jeu, il pense au Spiel des Jahres, notamment Repos Productions, vous faites pas mal de jeux, je dirais, très très accessibles. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez en tête quand vous vous lancez dans le développement d'un jeu ou pas du tout?
Non, on ne fait pas un jeu pour le Spiel des Jahres. Enfin, en tout cas, on n'a pas cette idée en tête au début. Après, on fait les jeux parce qu'on les aime et on les fait à notre goût, hein, c'est un peu notre marque de fabrique. Il faut que les jeux nous plaisent, plaisent à nos potes, plaisent à nos testeurs et sans arrêt, on les retravaille. Hein. C'est un peu une marque de fabrique chez nous, parce que des fois, ça met beaucoup de temps pour qu'on sorte un jeu parce qu'on va le tester, le modifier assez fréquemment. Et il y a un moment où on se rend compte, on se dit « Ah tiens, ça plaît beaucoup, donc on pense que c'est bon, donc le jeu sort parce qu'il est prêt ». Et quand on voit parfois l'accueil du marché, on va appeler ça, même ça fait un peu uniquement business, mais quand on voit l'accueil que réservent les joueurs, quand on voit les ventes, on se dit « Ah ouais, là, ça commence à cartonner quand même ». Et quand ça cartonne, et surtout quand on voit les retours, c'est-à-dire quand les gens nous... Des fois, on reçoit même des petits mots, des emails, en disant hey, « on a joué avec nos potes, qu'est-ce qu'on s'est marré, merci de faire des jeux, quoi ». Juste ça, c'est assez symptomatique, on se dit « Ah, maintenant, on peut peut-être commencer à croire à certaines choses ». Mais à la base, se dire « Nous faisons un jeu, il faut que ce soit de tel critère, parce qu'on cible le Spiel des Jahres », on ne l'a jamais fait pour l'instant.
Donc ça promet une belle vie sans doute à Just One, qui est déjà là pour s'installer, on a l'impression, tant il marche bien depuis sa sortie au mois d'octobre. Est-ce que le fait d'avoir le Spiel des Jahres, ça veut dire qu'il pourrait par exemple y avoir des extensions ou des spin-offs? Est-ce que c'est quelque chose auquel on pense par exemple?
Bon, c'est un peu tôt pour en parler, de toute façon, parce que le jeu est encore jeune. Par contre, ce qui se passe avec Just One, c'est qu'il n'y a peut-être pas d'extension tout de suite, parce que la boîte offre une rejouabilité qui est quand même assez énorme, vu qu'en fait, les noms qui sont proposés par les joueurs. Hein, la carte suggère un nom à deviner, mais ce qui va créer le fun, le sel du jeu, c'est les noms que vont proposer les joueurs autour. Donc en termes de rejouabilité, il y a une grosse rejouabilité. Et au point de vue de Just One, pour son début de vie dont on parlait, ça a démarré sur les chapeaux de roue. Maintenant, Just One existe même, alors qu'il y a quelques mois, c'est que même au Japon, en Corée, en Pologne, on l'a vraiment boosté dans plein de pays. Et je peux dire un peu sans surprise, mais dans ce cas-là, c'est surtout dit sans modestie, mais on y croyait. Et effectivement, ça marche bien, ça cartonne dans plein de pays, quoi. Donc là, l'Allemagne, qui est un peu le pays emblématique du jeu de société pour nous, recevoir le Spiel, forcément, ça fait super plaisir, parce que là, c'est tout un symbole. Mais le jeu marche déjà très, très bien, en fait.
Très bien. Bah, merci beaucoup, Cédric. Et puis, j'imagine qu'il va y avoir des festivités en conséquence pour le reste de la journée.
On se reverra.
Un autre jeu qui a été nommé au Kennerspiel des Jahres cette année, c'est Detective, le jeu sorti chez Portal Games et localisé en allemand par Pegasus. Et j'ai le plaisir d'être avec Ignaz Cevicek de Portal Games, un des auteurs et éditeurs de ce jeu. Alors Ignaz, Detective a reçu l'As d'Or Expert au Festival des Jeux de Cannes cette année, aussi le Dice Tower Award du meilleur jeu thématique. Aujourd'hui, c'est une nomination pour le Kennerspiel des Jahres. Alors, quelles sont pour vous les qualités du jeu qui font qu'il se retrouve ici aujourd'hui nommé une nouvelle fois pour une récompense?
In my opinion, the fact that it involves everybody.
À mon avis, c'est le fait qu'il implique tout le monde dans le jeu. Quand je vois les résultats du playtesting ou de sessions de jeu, tous les joueurs discutent, tous les joueurs réfléchissent, ils sont à fond dans le jeu. Et personne ne sait où sont passées les 2 ou 3 heures de jeu. Le jeu les aspire littéralement dans l'histoire. Et à la fin, les joueurs peuvent vraiment dire qu'ils ont joué pendant toute une soirée, c'est une expérience de résoudre l'enquête. Tout le monde est impliqué à 100% dans le jeu, tout le monde discute, tout le monde collabore à l'enquête. Pour moi, c'est ça la plus grande qualité du jeu.
Le sous-titre de Détective, c'est un jeu d'enquête moderne. Alors c'est un jeu, comme on le sait, qui fait appel à un site web dédié, une base de données en ligne, pour y trouver les informations nécessaires à l'enquête. On peut donc sans doute dire que c'est un jeu hybride. Est-ce que pour vous, ce côté hybride, c'était indispensable pour que le jeu soit en effet moderne ?
Oui, absolument. Dès le début, dès les premiers prototypes, notre vision du jeu, c'était de se sentir comme de vrais détectives du FBI qui vérifient des éléments dans une base de données, des informations sur les suspects, les interrogatoires, etc. Donc oui, c'était dès le début, le but était d'immerger les joueurs dans l'histoire en leur donnant la possibilité de se prendre pour des enquêteurs avec une base de données policière. C'était important au début. Nous sommes très contents de la version finale, et même si les joueurs sont parfois un peu réticents face à cet aspect du jeu, mais quand ils jouent, ils se sentent plongés dans cette atmosphère. Donc oui, je crois qu'on peut vraiment appeler ça un jeu moderne.
Alors, est-ce que ça veut aussi dire qu'il faut, pour un éditeur comme Portal, acquérir de nouvelles compétences pour développer un jeu sur ce principe ? Ou bien est-ce que le développement de la partie web est confié simplement à une société externe ?
Yeah, so this was of course very challenging.
Oui, évidemment, c'était un gros challenge de faire appel à cette société, de leur expliquer ce qu'on attendait de ce site web, comment ça marche. Il y a eu des mois de playtesting. De mon côté, je testais le jeu lui-même, comment résoudre les différentes enquêtes. Et d'un autre côté, en parallèle, il y avait le test du site web pour vérifier qu'il marchait comme on voulait et qu'on enrichissait l'expérience du joueur, etc. C'était comme faire un deuxième petit jeu à côté, ce site web. Mais comme je l'ai dit, je trouve que le résultat final est fabuleux. Ça augmente l'immersion dans le jeu, mais c'est vrai que c'était un défi supplémentaire, un effort supplémentaire de commander ce site à un prestataire externe et de l'ajouter au jeu.
Ces dernières années, il y a beaucoup de jeux qui mettent de nouveau le côté narratif en avant. Les joueurs aiment bien qu'on leur raconte des histoires. À quoi cela tient-il, à votre avis ? Est-ce que c'est l'influence du jeu de rôle ? Et est-ce que vous pensez que les jeux à scénario vont continuer à se développer ?
Oui, vous avez absolument raison. Quand j'ai fondé ma société, j'ai choisi le sous-titre « Des jeux qui racontent des histoires ». Portal Games, c'est ça, ce sont des jeux qui racontent des histoires. Notre fameux jeu Robinson Crusoe, ce n'est que de la narration. C'est un jeu coopératif, c'est un Eurogame, mais avec un très fort aspect narratif. Alors on est très content que le marché aille dans une direction où la narration est importante, parce que c'est nous, c'est ce qu'on sait faire. Quand j'ai fondé ma société il y a 20 ans, on publiait des jeux de rôle. Tout était centré autour des histoires. Et c'est ensuite seulement qu'on a commencé à faire des jeux de plateau. Et quand je vois ces nouvelles tendances, Time Stories, Sherlock Holmes, Détective, Gloomhaven, ces jeux à campagne, c'est une époque très propice pour ma compagnie et pour moi, donc je suis très content et je pense que vous avez raison. D'un côté, on avait ces jeux classiques à l'allemande, ces Eurogames. De l'autre côté, on avait les fameux jeux Ameritrash avec des dés, des scénarios. Et maintenant, nous sommes dans une ère où il y a ces jeux qui mélangent les deux avec des mécaniques solides, mais aussi des histoires formidables à découvrir. Super pour l'industrie du jeu et pour ma société, parce que c'est ce que je sais faire. Great time for the industry and great time for my
company because this is what I'm good at. Une petite question maintenant à propos du Spiel des Jahres. Portal Games, on le sait, c'est un éditeur polonais, mais qui a un rayonnement international. Comment est perçu le Spiel des Jahres en Pologne? Est-ce que c'est un prix qui a un impact sur le public, qui est connu et reconnu du public?
Oui, c'est bien connu. L'industrie du jeu a grossi ces dernières années en apprenant de ce que faisait l'Allemagne. On importait des jeux allemands, les Tikal, Torres, Alhambra, et on apprenait ce qu'étaient les meilleurs jeux allemands. Ils avaient ce logo du Spiel. Et si un jeu Portal a ce logo, c'est important. Pas seulement pour nous, mais pour les fans en Pologne. On reconnaît ce logo qu'on a vu sur des jeux des années précédentes, et on a toujours su que si on va dans un magasin de jeux en Allemagne et qu'on voit ce logo, c'est un bon jeu. Et maintenant, il y a même des jeux polonais, d'auteurs polonais qui portent ce logo. C'est très important pour toute l'industrie du jeu en Pologne que nous en soyons arrivés là. Une dernière question à propos de Portal, justement. Qu'est-ce qui se profile à l'horizon chez Portal? Je sais par exemple le Kickstarter de la nouvelle édition de Prêt-à-porter qui a été initialement sortie en 2010 se termine aujourd'hui, justement. C'est donc le projet du moment, j'imagine. Est-ce qu'il y a d'autres sorties de prévues? Est-ce qu'il y aura peut-être d'autres jeux sur Kickstarter? Oui, cette année, on a décidé de tenter l'expérience Kickstarter et on a décidé de le faire avec une nouvelle édition de mon ancien jeu Prêt-à-porter. Le succès est au rendez-vous, on termine la campagne ce soir, on a plus de 4000 backers qui sont intéressés par le jeu, on est très content et plus tard dans l'année, au mois de novembre, on recommence, cette fois avec Stronghold, encore un vieux jeu à moi. C'est un jeu où il faut défendre un château, l'un des joueurs est un nécromancien qui veut détruire le château. Et à l'intérieur se trouvent des soldats, des chevaliers, prêts à tout pour le défendre. Et après ces deux expériences sur Kickstarter, on verra comment ça s'est passé et on décidera si on veut recommencer dans les années à venir. Mais dès le début, pour ces deux jeux, c'était essayons, voyons comment ça se passe et après on décidera si on veut continuer les années suivantes. À Essen, il y aura Prêt-à-porter, la version pour les boutiques. Et quoi d'autre? Eh bien, plus de contenu pour Détective, plus de contenu pour Settlers, plus de contenu pour Robinson Crusoe, nos jeux cruciaux qui continuent de se vendre. Et puis de temps en temps, un nouveau jeu.
Très bien, eh bien, merci beaucoup Ignacy. Bravo encore pour cette nomination au Kennerspiel et à très bientôt, j'espère.
Thank you very much. Greetings to all. Merci, salutations aux joueurs français. Je sais que ce jeu y est très populaire, il a gagné l'As d'or. Les joueurs français nous disent qu'ils aiment Détective, alors merci beaucoup pour ces retours. Je vous promets encore beaucoup de nouvelles enquêtes, encore plus de contenu pour les joueurs.
Et voilà, c'en est terminé pour cette cérémonie du Spiel des Jahres 2019, qui se solde donc par la victoire de Just One pour le Spiel des Jahres et de Wingspan pour le Kennerspiel des Jahres. Une cérémonie, si vous l'avez suivie en direct, qui est certes protocolaire, mais qui a le mérite d'être menée tambour battant, qui est finalement relativement assez courte. Donne pas mal de place aux médias, que ce soit les médias traditionnels, plusieurs chaînes de télé étaient présentes, ou je dirais les médias internet. J'ai vu beaucoup de youtubeurs, de podcasteurs allemands. On sent bien que c'est un des événements majeurs de l'année et qu'il faut y assister. Il faut dire qu'après la cérémonie, il est très facile de pouvoir parler soit aux membres du jury, soit aux auteurs et aux éditeurs nommés. Et d'ailleurs, vous le voyez, je n'ai eu aucun problème à faire quelques interviews pour les auditeurs de Proxy Jeux. Voilà, c'en est terminé de ce hors-série de l'été 2019. Je vous dis à très bientôt et surtout, en attendant, jouez bien !